était prêt pour la grande offensive contre les émeutes, lorsque l'imprévisible arriva. D'abondantes pluies se mirent à tomber sur l'intérieur du pays, et les émeutes se retirèrent des terres à blé. Le répit fut toutefois de courte durée, puisque moins de 2 semaines plus tard, ils étaient revenus. Les 3 hommes de la task force furent aussitôt alertés et prirent de nuit le Kalgoorlie Express, qui circulait depuis 1917 sur une ligne de chemin de fer ouverte en 1897, après que d'importants gisements d'or furent découverts. Ils arrivèrent le 2 novembre au matin en gare de Bourakopine, où les attendait un camion qui les transporta jusqu'au village de Campion. 9 voitures de fermiers armés de fusils étaient venues leur prêter main forte, ainsi que des hommes à cheval. Il y avait aussi les frères Francias, Bert et Vic, ainsi que leur ami Ray Owen, qui était venu tout spécialement de Pike Ringbrook, à plus de 250 km à l'est, tout excité à l'idée de tirer des émeutes. Les frères Francias conduisaient un Chevy Troc, qu'ils avaient baptisé affectueusement le vieux bus. Ray Owen conduisait une voiture de sport de marque française, une Salmson. Les 2 mitrailleuses n'étaient pas encore déchargées qu'un groupe d'une 50aine d'émeutes fut signalé. Comme ils étaient hors de portée, le major Meredith demanda aux fermiers de les contourner pour les rabattre vers eux. Mais les émeutes ne voulurent pas obtempérer, préférant se diriger vers une zone couverte du bush. Voyant cela, le sergent McMurray ouvrit le feu à une distance de 1000 mètres. Il avait visé trop court et manqua sa cible. Une 2e rafale cueillit les émeutes au moment où ils atteignaient le couvert. 10 d'oiseaux peut-être furent tués. Le 1er sang de cette drôle de guerre venait d'être versé par l'armée australienne. Après cet accrochage avec l'ennemi, les hommes de Meredith gagnèrent la propriété de Joseph Joyce pour y établir leur camp de base. La ferme des Joyce avait une superficie d'environ 1200 hectares, ce qui la situait dans la moyenne des fermes de la région. Compte tenu des dégâts infligés aux cultures par les émeutes, les fermiers estimaient que leur perte serait de 8 à 10 sacs de blé par hectare, et comme si cela ne suffisait pas, les émeutes avaient aussi endommagé la grande barrière contre les lapins qui courait du nord au sud de l'Australie, provoquant une invasion massive de ces derniers. Les fermiers avaient vraiment de quoi être en colère. Toute l'après-midi, les recherches continuèrent. Les voitures des fermiers roulaient en avant pour débusquer les oiseaux. Les mitrailleuses suivaient dans un camion, prêtes à intervenir. Au bout d'une heure ou deux, toujours pas le moindre émeu en vue. Le major Meredith commençait à se demander si la méthode employée était la bonne.
Visiblement, major, s'exclama le sergent McMurray, les émeutes ne veulent pas sortir. Je me demande si le bruit des voitures ne les pousse pas au contraire à s'enfoncer à l'intérieur des cultures.
Je pense que vous avez raison, sergent. J'ai remarqué que tout à l'heure, quand nous longions la grande parcelle des Amberson, un groupe d'une 20aine d'émeutes mangeait tranquillement en limite de culture. Il devait être à environ 1500 mètres, mais quand nous nous sommes rapprochés, ils avaient disparu. Le bruit ne les fait pas sortir, bien au contraire.
En fin d'après-midi, alors qu'ils commençaient à ne plus y croire, ils aperçurent un groupe d'émeutes qui mangeait tranquillement dans une des parcelles d'un des frères McGeorge. Ils étaient loin, à environ 800 mètres, mais aucun de ceux qu'ils avaient pu apercevoir tout au long de l'après-midi ne s'était laissé approcher à moins 1 kilomètre.
« Stoppez le camion et descendez-moi une mitrailleuse !» s'exclama le major Meredith.
L'injonction du major fit sourire le sergent McMurray, toujours avide de montrer son habileté au tir.
« Dépêchez-vous avant qu'il ne rentre dans la parcelle !» cria le major.
McMurray et O'Halloran sautèrent du camion et prirent une des 2 Lewis Mark. La mitrailleuse pesait très exactement 12,7 kg, possédait un chargeur à tambour de 47 cartouches et pouvait tirer 500 à 600 coups à la minute.
Les deux hommes se mirent aussitôt en position. Jim O'Halloran s'assit sur une petite butte de terre. Le sergent s'agenouilla derrière lui, posant le canon de la mitrailleuse sur l'épaule droite de Jim, ce dernier la maintenant fermement à l'aide d'une poignée. Le sergent inspira profondément, regarda dans le viseur et fit feu. En moins de 20 secondes, 150 douilles furent éjectées. Les émeus eurent le réflexe immédiat de ne pas rester groupés et se mirent à courir en tous sens. Certains se réfugièrent dans le bush, d'autres dans les cultures. Aucun oiseau n'était tombé. Un fermier s'approcha du major Meredith. « Vous les avez touchés, je l'ai bien vu. Mais une balle suffit rarement à les tuer sur le coup. Ils sont sacrément coriaces. » Un autre fermier à la mine couperosée, au cou de taureau et qui devait bien accuser les 150 kilos sur la balance, ajouta « Vous avez fait mouche, sergent. Ils ne vont pas aller bien loin, avec tout le plomb qu'ils ont dans le corps. » Le sergent McMurray se releva, content des paroles qu'il venait d'entendre. « J'ai bien vu que je les avais touchés. Au premier tir, certains ont été pris de soubresauts et ressemblaient à des pantins désarticulés. Mais fichtre qu'ils sont coriaces. Si c'était des hommes, le sol en serait jonché. » Le major Meredith estima les pertes ennemies à une dizaine d'individus. Il songea pour la première fois à la dépêche du colonel Haute de la 1ère division de cavalerie à Sydney qu'il avait reçue dans la matinée. C'était une commande pour 100 peaux d'émeux, dont les plumes orneraient les chapeaux de la cavalerie légère. Il commençait à réaliser que cet ordre du colonel Hood ne serait pas aussi facile à remplir qu'il l'avait cru. Les émeux n'apparaissaient qu'en petits groupes de 30 à 40 individus, et non par centaines comme il l'avait espéré. « Nous allons changer de tactique. Nous allons leur tendre une embuscade, » déclara le major. « Ce soir, au crépuscule, nous les attendrons au réservoir de Lake Brown, à l'heure où ils viennent boire. » Embusqués derrière de hauts murs, les hommes étaient confiants. La chance allait enfin leur sourire. Le major Meredith, qui devait bien faire une tête de plus que ses deux acolytes, scrutait l'horizon. « Vous attendrez mon ordre pour tirer. Attendez qu'il soit le plus près possible. À cette distance, on ne peut pas les louper. »« Ok, major, » répondirent presque simultanément les deux hommes. Le caméraman de la Fox Movietone s'était installé un peu plus loin avec les correspondants de presse. Il y en avait un qui travaillait pour le Daily News de Perth, un autre pour le Berrier Miner de Broken Hill. Au bout d'une dizaine de minutes, ils aperçurent un dingo solitaire qui marqua un temps d'hésitation avant de s'abreuver. Un peu plus tard, un groupe de kangourous fit de même, mais toujours pas d'émeux. « Ils n'ont pas l'air d'avoir très soif, major !» lança Jim O'Halloran. Le major ne jugea pas nécessaire de répondre. Il haussa juste un peu les épaules. Il fallait attendre, c'est tout. Mais au bout d'une heure, force fut au major de reconnaître la valeur prophétique de la boutade de Jim. « Allez, on plie, rangez-moi tout, ils ne viendront plus ce soir. En plus, il fait nuit noire, ça sert à rien d'attendre, on n'y voit plus rien. Allez, maniez-vous !» Dans le camion qui les ramenait à la ferme des Joyce, le major ne put s'empêcher de repenser à ce que lui avait raconté un fermier. Un des frères, MacGeorge, dont les cultures avaient été très sévèrement touchées par les émeux, aurait néanmoins réussi à en éliminer près de 700 au cours des semaines précédentes, ce qui les aurait rendus très méfiants et difficiles à approcher. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, toute la maisonnée était sur le pas de la porte. Un grand rouquin qui ressemblait à une asperge s'approcha du camion. « Alors, ces 100 peaux, elles sont où » interrogea-t-il en ricanant. « Chou blanc, je vous l'avais bien dit, mon vieux Moser est plus efficace contre les émeux que vos mitrailleuses. » Le sergent aurait bien eu envie de foutre son poing dans la gueule à ce jeune blanc-bec s'il n'avait pas été le fils de leur hôte.
Ferme-la ! Lui intima son père. Pourquoi il faut toujours que tu l'engueules ? Répliqua la mère. J'aime pas que tu le rabaisses devant des étrangers, je te l'ai déjà dit. C'est mauvais pour son éducation. Foutez-moi la paix tous les deux, ce soir j'en ai ma claque. Les émeus sont rentrés dans la grande parcelle qui longe la route de Moukine-Boudine. Ils ont piétiné plusieurs hectares, alors ne venez pas m'emmerder avec vos histoires de bonnes femmes.
En passant le pas de la porte, le major Meredith jeta un œil au fusil appuyé sur le mur. C'était un Mauser de calibre 7 mm, exactement le même que celui qui avait permis au bourg de gagner la bataille de Majuba. Les Britanniques, équipés de fusils Martini Henry, avaient été impuissants face au Mauser, bien plus précis pour le tir à longue portée. Le 3 novembre, il n'y eut aucun affrontement notable, l'ennemi restant toujours hors de portée. Dans la soirée, un fermier vint rapporter au major qu'un groupe de 1000 émeus avait été aperçu à une cinquantaine de kilomètres au nord et se rapprochait. Il fut immédiatement décidé de leur tendre une embuscade en les attendant au point du jour une dizaine de kilomètres plus au sud, autour d'un bassin naturel situé sur leur route. Le major garda le lieu secret pour ne pas attirer les curieux. Il faut dire que les gros titres de la presse l'avaient rendu furieux. Le Daily News de Perth avait titré « Les émeus tiennent bon face à l'armée, seulement 20 tués sur une population estimée entre 5 000 et 10 000 individus ». Les hommes de la Task Force arrivèrent peu avant l'aube au point d'eau. Des perruches à collier jaune criaient dans les eucalyptus. Le major inspecta soigneusement les lieux avant de décider où placer la mitrailleuse. 5 fermiers armés de fusils les accompagnaient. Le sergent McMurray n'était pas là. Il s'était rendu plus au sud avec l'autre mitrailleuse, où un nombre important d'émeus avait été signalé à l'intérieur d'une parcelle de petite taille. En multipliant les embuscades, il multipliait aussi les chances de succès.
« C'est vraiment un endroit magnifique !» déclara le major. « C'est un gnama !» lui répondit un fermier.
« Un quoi ?»«
Un gnama !» Ce mot nous vient des aborigènes. Un lent processus d'érosion de plusieurs millions d'années a creusé ses trous dans la roche granitique. Puis au cours des derniers millénaires, les animaux d'abord, principalement les émeus et les kangourous, les ont agrandis en grattant le sol avec leurs pattes, à la recherche des dernières gouttes d'eau. Les aborigènes les ont ensuite considérablement agrandis pour collecter les eaux de pluie. Ils ont aussi une astuce remarquable pour éviter que l'eau ne soit polluée par les larves de moustiques et autres insectes. Ils recouvrent de sable certains gnamas de petite taille, ce qui empêche les insectes de pondre. Il leur suffit ensuite de creuser le sable pour que l'eau arrive filtrée. C'est tout un art de la survie pour ces nomades du désert. D'un seul coup, les émeus sortirent du bouche. C'était vraiment très impressionnant. Ils étaient à plus d'un kilomètre et formaient une immense tache de couleur brun foncé qui contrastait fortement avec le sol ocre orangé. Ils avançaient en rang serré vers le point d'eau. Ils étaient si nombreux qu'on n'en voyait pas la fin. Qui plus est, les derniers se perdaient dans un nuage de poussière. Les fermiers se frottaient déjà les mains. Les perruches à collier jaune cessèrent brusquement leur raffut. On n'entendait plus qu'un immense murmure qui montait. L'œil dans le viseur, le doigt sur la détente, Jim attendait. Il laissait approcher les émeus. Tout son corps était tendu. Il n'avait pas connu ça depuis la Première Guerre mondiale. « Ça va être un véritable carnage, se dit-il, du tir à bout portant. » À une centaine de mètres du point d'eau, l'armée émeu s'arrêta. Jim Walloran fit cracher la mitrailleuse, mais celle-ci s'enraya. Les fermiers prirent immédiatement le relais avec leurs fusils.
quand la mitrailleuse fut à nouveau prête à entrer en action, c'était déjà trop tard. Les émeutes étaient hors de portée et bon nombre avaient déjà rejoint le bush. Les hommes furent une nouvelle fois étonnés du nombre insignifiant d'émeutes tombés à la première rafale. Seulement une douzaine de tués sur un millier, c'était à peine croyable.
« Il nous faudrait des balles doum-doum, » déclara le major. « Ce sont les seuls qui pourraient les arrêter. »«
C'est bien vrai, major, » répliqua Jim O'Halloran.
« Qu'ont-elles donc de particulier ?» interrogea un fermier.
Le major sortit une cartouche de 303 de sa poche. « Vous voyez, là, à l'avant, elle est toute lisse. Eh bien, les balles doum-doum sont fendues en croix à cet endroit. » Leur nom provient d'un arsenal anglais des faubourgs de Calcutta où elles ont été mises au point pour arrêter les rebelles fanatisés qui, grièvement blessés, continuaient à charger. Alors qu'une balle normale pénètre les chairs et glisse facilement sur l'os, une balle doum-doum se déforme à l'impact, fait éclater les os et cause des blessures beaucoup plus graves.
« Bah, dans ce cas, pourquoi ne pas en utiliser contre les émeutes ?» ajouta le fermier.
On n'a plus le droit. Elles ont été interdites par la Convention de La Haye de 1899.
Un autre fermier qui avait suivi la conversation ne put s'empêcher d'ajouter.
Je suis même pas sûr qu'avec vos balles doum-doum, vous en tueriez beaucoup plus. C'est que des plumes, ces oiseaux. Il est très difficile de toucher un point vital. Il n'y a qu'en leur tirant dans la tête qu'on peut être sûr de les tuer.
Le fermier sortit son mouchoir pour s'essuyer le front. Le soleil commençait déjà à taper. Ils passèrent le reste de la journée sous un soleil de plomb à attendre que les émeutes, tiraillées par la soif, réapparaissent. Mais ces derniers se montrèrent une nouvelle fois plus rusés qu'ils ne le croyaient et ne sortirent pas de la couverture forestière. Une sentinelle qui avait monté la garde la nuit précédente autour du Gnama déclara néanmoins que les émeutes ne devraient pas résister plus de 24 heures. Le sergent MacMurray, qui s'était rendu plus au sud avec l'autre mitrailleuse, n'avait guère eu plus de succès. Il était resté dissimulé toute la journée à l'intérieur d'une parcelle de blé où un nombre important d'émeutes avait été signalé. Il rapporta au major en avoir peut-être tué une dizaine, pas plus. Le 5 novembre, quatrième jour de la campagne, il fit extrêmement chaud. Le major Meredith et le sergent MacMurray avaient passé la nuit dans une des parcelles les plus touchées, celle de Joe Perry, une des grandes fermes au nord de Campion. Les dégâts étaient considérables, il fallait le voir pour le croire. Les émeutes avaient tout piétiné. Sur les 120 hectares de blé initiaux, seulement un tiers était encore debout. Tout le reste était aplati, écrasé. Une vraie désolation pour les fermiers. Pour Joe Perry, le calcul était vite fait. Au lieu des 15 sacs de blé à l'hectare qu'il récoltait habituellement, le rendement de cette année ne dépasserait pas les 5 sacs. Joe Perry déclara également à un correspondant de presse que pour 100 pieds de détruits, seulement un était mangé. Un ornithologue fit toutefois remarquer avec humour que les émeutes sauraient faire autant de dégâts avec leurs grands pieds palmés, étant donné qu'ils ne possèdent aucune membrane entre les doigts de leurs pattes. Ce à quoi Joe Perry répondit que le journaliste était ignare, qu'il n'avait jamais dit cela et savait parfaitement que les émeutes n'avaient pas les pieds palmés. La nuit passée dans la parcelle permit aux hommes de surprendre les émeutes au point du jour. Une trentaine d'émeutes en maraude dévoraient goulûment les épis en lisière de champ. Le sergent MacMurray, après de longues heures de veille, s'était assoupi. Bien que n'ayant pas les aptitudes au tir du sergent, le major montra qu'il n'était pas non plus un novice en faisant mouche à la première rafale. Plusieurs émeutes furent propulsées dans les airs avant de retomber lourdement sur le sol. Une dizaine d'oiseaux furent tués sur le coup
et nombre d'autres blessés. Le sergent McMurray et le major Meredith furent relevés en fin de matinée par Jim O'Halloran et Joseph Joyce, qui ne virent pas le moindre émeute de toute l'après-midi. Meredith et McMurray décidèrent de passer la nuit suivante en embuscade sur la parcelle d'un des frères McGeorge, où les émeutes venaient d'être signalées en nombre. Le 6 novembre au matin, un groupe d'une centaine d'émeutes apparut à l'horizon. Les hommes de la task force, bien camouflés, les laissaient tranquillement approcher. Mais, parvenus à environ 300 mètres, ils s'arrêtèrent à l'intérieur d'une grande dépression du terrain, dont ils ne semblaient guère pressés de sortir. On apercevait seulement de ces ennemis à plumes les longs cous surmontés de têtes curieuses qui regardaient avec envie les cultures de blé.
« Qu'est-ce qu'on fait, major ?» demanda le sergent McMurray. « Ça fait un moment qu'on attend et il ne semble pas vouloir sortir. Il semble se douter de quelque chose. » Le major était énervé. Rien ne se passait jamais comme prévu et les émeutes étaient de plus en plus méfiants. «
C'est marrant, » dit Jim O'Halloran en reposant ses jumelles. « Mais on dirait vraiment qu'ils nous regardent. Toutes leurs têtes sont tournées dans notre direction. »
« Il paraît qu'on peut les attirer en imitant leurs cris, » ajouta Jim après un long silence.
« Eh bien, vas-y, on t'écoute !» lança le sergent en rigolant. « Montre-nous comment tu fais le cri de l'émeu !»«
Arrêtez vos conneries, tous les deux, et trouvez-moi un moyen moins idiot pour les faire sortir !» dit le major.
« C'est peut-être une connerie ce que je vais dire, » ajouta Jim, « mais il me semble qu'en agitant un mouchoir de couleur, ça pourrait marcher. Ils sont attirés par tout ce qui bouge. » C'est d'ailleurs pareil avec les autruches.
C'est vrai, major, fit le sergent. Il me semble déjà avoir entendu dire quelque chose de ce genre.
Ok, allez demander à un fermier ce qu'il en pense.
Jim était déjà parti, que le major le rappela. Attendez, j'ai encore autre chose à vous dire. Envoyez-moi le photographe du Daily News. J'ai pas envie de voir demain en première page la photo des émeutes qui nous regardent.
« Bien, major, je vous l'envoie. »
Quelques minutes plus tard, Jim était de retour.
« Major, le photographe ne veut pas venir, mais il m'a chargé de vous dire qu'il ne publierait aucune photo qui pourrait discréditer le rôle de l'armée dans cette campagne. Il a trop d'empathie pour les fermiers. Quant aux émeutes, Thomas McGeorge m'a dit que les aborigènes les attiraient en faisant se balancer une boule de plume et de tissu sous les branches d'un arbre. »
« Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Accrochez votre mouchoir au bout d'une branche et agitez-la »
L'artilleur s'exécuta aussitôt, et bientôt un beau mouchoir blanc flottait dans les airs.
« Vous allez voir qu'avec notre veine, on va les faire fuir au lieu de les attirer !» s'exclama le sergent McMurray.
Mais Jim avait beau agiter son mouchoir, les émeutes demeuraient impassibles. Leur tête était toujours tournée vers les cultures, mais il se souciait comme de l'an 40 de ce petit morceau de tissu blanc qu'il ne percevait peut-être même pas à la distance où il se trouvait.
« Bon, on va essayer autre chose !» s'exclama le major. Et il sortit de son étui un drapeau rouge. Le sergent éclata de rire.
« Ce serait quand même un comble qu'on les fasse sortir avec ça. On l'agite pour que les gars se mettent à couvert quand on ouvre le tir. »
« Sait-on jamais ?» répondit le major, et il commença à agiter le drapeau rouge.
Jim, les yeux rivés à ses jumelles, guettait la moindre réaction des émeutes.
« Continuez, major, on dirait qu'ils l'ont remarqué. »«
Oui, oui, ils ont vu le drapeau. J'ai l'impression qu'il y en a un qui commence à sortir. »
Le sergent McMurray rigola.
« Remuez-le un peu plus, major, » ajouta Jim, « on dirait que ça marche. »
Le sergent McMurray continuait à rire.
« Oh, O'Halloran, si vous vous foutez de ma gueule, vous me le paierez !» s'exclama le major.
« Mais non, major, je vous jure, ça marche, il commence à sortir !»
Et effectivement, les émeutes commencèrent à sortir, avec à leur tête un immense oiseau noir de près de 2 mètres. Ils avancèrent d'une centaine de mètres et s'arrêtèrent.
« Qu'est-ce qu'on fait, major ?» demanda le sergent.
Ils sont à moins de 200 mètres et groupés. C'est une cible parfaite. « Ouvrez le feu !» cria le major. Et immédiatement, les hommes du 7e corps de batterie lourde de la Royal Australian Artillery firent crépiter leurs mitrailleuses. Ces engins de mort envoyaient des projectiles de 77 mm à la cadence infernale de 10 coups par seconde, lesquels transperçaient bien souvent de part en part les émeus. Les hommes les tiraient par rafales de 5, et la distance entre deux projectiles était très précisément de 53 cm. Inutile de dire que les émeus n'avaient aucune chance de les esquiver. Et pourtant, une fois encore, le résultat fut affligeant. Seulement une dizaine de tués parmi les émeus et un blessé parmi les fermiers, lequel s'était maladroitement tiré une balle dans le pied. Les hommes voulurent en avoir le cœur net et décidèrent de suivre les émeus à la trace. Sur une distance d'un kilomètre, ils en trouvèrent deux qui agonisaient. L'un avait une balle dans le corps, l'autre avait le cou transpercé. Mais combien d'oiseaux blessés s'étaient cachés dans les broussailles épaisses du bush pour y mourir? Nul ne le savait, tant la résistance de ces oiseaux était étonnante.